littérature,
cybernétique,
avenir,
prospective,
science-fiction,
liberté,
utopie.
We can face any future.
Any future. Any future.
Le podcast des Utopiales. Utopiales 2021. Sans parole. Benjamin Adam, Pim Boss, Marc Caro, Stanislas Mousset. Modération, Gilles Francescano.
Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette table ronde sans parole. Donc vous avez vu, on a bien commencé puisqu'on était dans le silence absolu et l'invisibilité totale. Donc excusez-nous pour les petites minutes de retard. Bienvenue donc à Marc Caro au milieu de nos compatriotes. Pim Boss qui est venu de loin durant le festival, Benjamin Adam et Stanislas Mousset pour nous parler, j'espère, en tous les cas, de récits sans parole. Alors, vu qu'il s'agit de récits quand même, on va quand même aborder l'aspect graphique, puisque il a bien fallu, j'imagine, messieurs, que vous puissiez vous appuyer sur une forte identité visuelle pour se passer de mots dans vos récits. Donc on va pas forcément présenter chacun des albums, parce que là, sinon, on passerait juste l'heure à faire ça, mais peut-être sur la problématique, effectivement, de la... Alors, pas du renouveau de la bande dessinée, parce que la bande dessinée sans parole, ça a quand même toujours plus ou moins existé ou ponctué l'histoire de la bande dessinée. Mais qu'est-ce qui vous a attiré dans ce type de récit, sur cette posture radicale quand même, hein, qu'on peut trouver quand même radicale.
C'est bon là ?
Oui.
Moi je veux bien répondre. C'est plus le côté du coup graphique, quoi, jouer à fond sur le dessin. Et tout miser sur le dessin. Et puis je pense que l'histoire peut tout à fait se passer de texte, comme le cinéma muet ou des vieux dessins animés qui n'avaient pas de texte et qui avaient des histoires géniales.
Moi, c'est aussi un peu comme toi. C'est un amour du cinéma muet, un amour du cinéma visuel et de raconter des histoires sans parole, sans dialogue et une compréhension narrative. Voilà, juste entre les images. Donc il y a un pas encore qui est fait avec la BD, parce que la BD, c'est quand même l'art de l'ellipse par excellence. Et là, il faut tout raconter entre chaque dessin. Et moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu dans cette collaboration avec Pim, c'est qu'il avait un univers absolument extraordinaire. Et quand il m'a demandé de lui filer un petit coup de main pour mettre ça en forme, ça a été vraiment un grand, grand plaisir de correspondre comme ça avec lui par Internet, et puis de recevoir tout cet univers comme ça visuel, parce que c'est quand même ça qui compte. C'est vrai que tous les grands réalisateurs pour qui j'ai une grande, grande admiration, tu vois, les Kurosawa, les Hitchcock, les Léon, tout ça, ils faisaient toujours un passage, quand, même si c'était des films avec des paroles et tout ça, mais ils passaient toujours, pour Kurosawa et Hitchcock, c'est normal parce qu'ils venaient du cinéma muet, mais ils faisaient toujours un passage de leur film, du montage de leur film, sans parole, ils coupaient le son. Parce qu'il y a un truc qui me dérange un petit peu, moi, pour le cinéma contemporain, c'est que vous coupez le son d'un film français maintenant, vous comprenez que dalle à l'histoire. Vous voyez des mecs dans des cuisines ou des trucs comme ça qui arrêtent juste de parler, blablabla, comme ça. C'est des films de gens qui parlent. Et moi, ça ne m'intéresse pas vraiment. Alors que même un film un peu pas terrible américain, tout ça, tu sais que lui, c'est le méchant, qu'il a volé la banque. Tu vois, il y a vraiment une lecture à un autre niveau. Et après, le dialogue, les émotions et tout ça, elles passent à travers beaucoup de choses, le son, l'image, tout ça, mais que ce soit la bande dessinée ou le cinéma, c'est quand même des trucs visuels, quoi, qu'il faut... C'est comme ça que tu racontes une histoire, c'est la narration. Voilà.
Alors, juste, parce que votre couple est assez particulier, puisque vous vous êtes rencontrés aux Utopiales, en fait. Donc, ça me fait penser quand même à quelque chose de presque humoristique, parce que j'ai lu dans un des albums donc un remerciement au confinement. Hein, et donc, ça évoque moi la temporalité nécessaire à la bande dessinée, puisque on sait que c'est quand même à chaque fois quand même un travail gigantesque. Hein, ça se lit malheureusement trop vite par rapport au temps de travail investi. Mais du coup, là, effectivement, on peut quand même dire que heureusement que l'année passée, il n'y a pas eu l'édition, parce que sinon, on n'aurait pas eu le deuxième tome de Tremaine tout de suite, quoi.
Peut-être, je sais pas, ça faudrait demander à Pim.
Il faut tirer des choses positives de la situation, quoi.
Yeah, I think a lot of people suffered from the lockdown, but the people that enjoyed it a bit were the artists, since not too much changed in their life, and well, you could do what you always do, a drawing on your own in silence in your room, and you had no even less distractions than before.
Je sais pas si c'est glamour là, du coup la vie d'artiste décrite comme.
Ça peut se voir comme, comme un certain recueillement, une certaine spiritualité, tu vois, un retour vers l'intérieur pour après partager, quoi.
Jamais, ta vision de tout ça aujourd'hui
pour
l'aspect radical et...
En fait, déjà, le rapport au texte, pour moi, il est... ça marche maintenant. C'était un vrai défi sur ce bouquin-là de jouer la carte du muet, parce que j'ai plutôt l'habitude d'être assez bavard quand même dans les dialogues, dans la voix off, j'aime bien rajouter un récit, un deuxième récit, un troisième qui s'intercale, et je me sers vraiment beaucoup de l'écrit. Et là, la forme de ce livre était particulière parce qu'il y avait un format, donc déjà qui est quand même un peu plus grand que ce qui se fait le plus souvent, et aussi une pagination qui était courte. De rajouter en plus cette contrainte de se passer du texte était à la fois un défi pour réussir à quand même raconter des choses et à la fois une aide pour ne pas trop me perdre. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième, c'est que en le faisant, et particulièrement peut-être en le faisant pendant cette période du confinement, je me suis rendu compte que ça collait particulièrement à un certain type d'ambiance de se passer du texte, puisque là, je suis dans un récit qui est plutôt du type post-apocalyptique, ou en tout cas on est dans un monde qui est vraiment dépeuplé, et être uniquement dans le dessin apportait vraiment quelque chose à un grand silence généralisé, qui allait bien finalement avec ces images qu'on voyait en même temps sur toutes les sites et toutes les chaînes d'infos montrant des villes désertées, et il y avait une cohérence à tout ça, quoi, finalement.
Oui, tout amateur de science-fiction a quand même adoré vivre la période qu'on est en train de vivre, parce que se dire au moins on l'aura vécu.
Ouais, alors ça, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, ça m'a fait vraiment une impression très bizarre d'avoir enfin le temps de dessiner mes grandes villes dépeuplées comme j'attendais depuis un an, et de les voir en vrai. Et finalement, c'est comme si ça m'enlevait la moitié de l'envie, quoi. C'était comme s'il fallait dessiner des choses qui n'existent pas ou qui n'existent pas encore. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez.
Ouais, t'étais plus obligé de faire des arrêts sur image sur des films de zombies.
Ouais.
Il y a quand même, dans ton récit, effectivement, bon, un album magnifique et grand format, et alors qui est quand même plus proche de la peinture graphiquement, hein, que du trait, on est d'accord. Les seuls mots présents dans le texte sont assez glaçants, finalement. Parce que déjà, il y a le titre, que j'aimerais bien que tu m'expliques. et le mot de quatrième de couverture qui fait juste flipper et qui incite effectivement au silence absolu, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Tu peux nous parler de ça un petit peu, sans déflorer le texte, hein, mais
ouais, enfin,
le texte. Excuse-moi, le récit.
Ouais, le titre déjà, peut-être pour commencer par ça. C'est donc trois lettres que j'ai rassemblées de la même façon que l'unique personnage du livre les rassemble. Faut imaginer, si vous n'avez pas vu le bouquin, que c'est les dernières lettres qui ne soient pas encore tombées de la grande enseigne qui surplombait un centre d'enfouissement nucléaire. Et je trouvais intéressant que ce personnage, qui passe son temps quand même à plutôt répéter des gestes et des rituels qui ont perdu de leur sens avec le temps, soit face à des lettres qui n'ont pas de sens en soi, mais qui sont les seules présentes, donc qui pour lui, on l'imagine, en tout cas moi je l'imagine, deviennent le nom de cet endroit. Alors que c'est juste des vestiges, mais c'est comme cette façon de reconstituer du sens avec les seules choses qui restent, quoi. Alors, moi, c'était ça qui m'intéressait. Je ne vous cache pas que j'ai cherché un peu à droite, à gauche, ce que pouvait signifier Huos dans d'autres langues, et la réponse m'a été apportée en dédicace une fois avec un lecteur qui m'a dit que Huos, je crois en latin, voulait dire nous. Et finalement, c'est un coup de bol, voilà. Mais ça a quelque chose de parlant quand même, sans avoir fait exprès.
Est-ce que tu peux nous parler du quatrième de couverture, du coup? Ce texte est un texte réel que tu as trouvé sur le site, ou comment ça s'est présenté à toi, du coup?
Ce texte est celui qui avait été envisagé, je crois, en 9 langues, pour le disposer en préambule, en avertissement, tout autour d'un centre d'enfouissement nucléaire réel.
Tu peux nous le lire?
Oui, si vous voulez.
Juste parce que... Et vous allez comprendre.
Je croyais que c'était un truc sans parole, moi. Ce de...
Là, on n'est pas bon.
Ça va devenir très bavard, hein, il me semble.
Donc, le texte. Cet endroit n'a pas été construit en l'honneur de quelqu'un. Aucun acte d'importance n'est commémoré ici. Aucun objet de valeur n'y a été enterré. Ce qui se trouve ici est dangereux et repoussant pour nous. Ce message est destiné à vous avertir d'un danger. Ce danger est toujours présent à votre époque, comme il l'était pour nous. Ce danger peut menacer votre corps et il peut tuer. Ce danger se manifeste par une émanation d'énergie. Il ne se déclenche que si vous dérangez physiquement cet endroit. Il faut éviter cet endroit et le laisser inhabité. Donc ce n'est pas la grande bonne humeur. Et ce qui était donc envisagé par ce centre, je crois que c'était un centre au Nouveau-Mexique, c'était de le faire figurer en 9 langues tout autour pour avertir d'éventuels gens d'époque à venir. Mais évidemment, ça a posé la question qui était très largement explorée dans ce dossier que j'ai pu trouver sur Internet, de la persistance du langage, parce qu'on peut mettre toutes les langues qu'on veut, on n'a absolument aucune certitude qu'elles seront toujours comprises par quelqu'un à échelle d'épuisement d'un danger nucléaire, en fait.
Oui, là, c'est vraiment une mise en abîme de la réalité, quoi, en fait. Le fait de faire un album sans parole autour de ce sujet-là, parce qu'effectivement, le nucléaire, on imagine des zones silencieuses, désertiques, inhabitées, et absolument silencieuses.
Mmh. Et ça paraît même un peu dérisoire, du coup, de mettre un avertissement.
C'est sûr.
À ce niveau-là.
Alors, ce qui me semble retomber dans notre sujet, hein, qui est sans parole, c'est que, par exemple, tu vois, tu es obligé de faire des traductions dans toutes les langues. Parce qu'autrement, ça ne veut rien dire à personne, c'est juste des signes. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a toujours fasciné dans la bande dessinée sans parole ou dans le cinéma sans parole, c'est qu'il y a un aspect universel. Il y a un aspect vraiment... tout le monde est une image, on la comprend. Les premières gravures, les premiers trucs qu'on a eus dans les cavernes, c'était une empreinte de main, c'était des genres de choses comme ça visuelles où on comprenait déjà, on nous racontait une histoire, on nous racontait la chasse aux aurochs ou aux mammouths. Et c'est vrai que moi, la bande dessinée qui m'a toujours fasciné, c'est une bande dessinée où tout est raconté, vraiment. Il y a des séquences dans Hugo Pratt, dans Corto Maltese, où c'est des pages entières, où on fait un travelling arrière comme ça, sur des bandes noires. Au départ, c'est très abstrait, puis on s'aperçoit que c'est les zèbres sur un zèbre, et puis après, on s'aperçoit que ce zèbre, c'est la peau d'un bouclier de Maasai et de choses comme ça. Il y a une autre planche absolument extraordinaire où il y a un éboulement de pierre et ça devient là aussi complètement abstrait. Et c'est à travers toute la construction du récit, à travers les cases comme ça, qu'on raconte vraiment, on traduit comme ça, presque d'une manière... Il y a ça aussi avec les mots, hein. Bien sûr, quand c'est de la poésie pure, les mots, peut-être des fois accolés comme ça, ne sont pas forcément compréhensibles, mais ça devient plus fort, ça devient presque magique au bout d'un moment. Et là, on a des images, on a des émotions qui passent, parce que l'intérêt, que ce soit avec ou sans parole, c'est quand même de transmettre des émotions, de faire participer le lecteur ou le spectateur à ce que vous voulez lui transmettre, le faire rire, le faire pleurer, qu'il ait peur, qu'il ait... Voilà. Et je trouve que la manière la plus universelle de le faire, c'est pas pour rien si tous les signaux, les panneaux signalétiques et tout, c'est que des... C'est des idéogrammes. Hein. Il y a, voilà, attention, on reconnaît tous un sens interdit dans quelque langue que ce soit, ou une petite tête de mort avec le machin, on sait que oh là, c'est Tchernobyl. Enfin, voilà. Et je trouve que cette puissance magique de l'image, hein, image, magie, voilà, c'est un peu facile comme anagramme, mais est vraiment importante. Et la force de bande dessinée comme ça, là, comme celle que j'ai sous les yeux, c'est ça, c'est un, y a pas besoin de traduction. Tremaine ou Mater ou des trucs comme ça, vous pouvez le vendre à travers le monde et chaque spectateur le prendra peut-être avec sa culture, avec son histoire, etc. L'interprétera peut-être pas de la même manière, mais en tout cas, il sera touché émotionnellement. Son inconscient sera touché d'une manière comme ça, visuelle. Et moi, je trouve que c'est ça qui est important. La force des surréalistes a été ça, hein, quand même. Donc, voilà, c'est pour ça que moi, j'étais absolument super content que Pim m'invite à participer à son aventure, parce que j'ai trouvé, dès le premier album, que c'était extraordinaire ce qu'il fait. Lui, il construit vraiment un univers tout en 3D, comme ça, avec son architecture, ses personnages, sa logique interne et tout ça. Et là, il est en train de préparer un jeu vidéo qui va être, c'est ça, mais en mouvement, avec du son, avec du,
oui,
du mouvement
de caméra,
tout ça. Ça va être sublime, quoi. Voilà.
Ouais, moi, je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que tu disais. C'est le côté... ouais, sans parole, c'est les idéogrammes, tout ça. En fait, travailler sans texte, il y a aussi quelque chose de revenir en fait à quelque chose de basique, à quelque chose d'essentiel en fait. Essayer d'aller au, ouais, vraiment à l'essentiel quoi. Réussir avec un dessin à faire ce que certains pourraient faire avec du texte, mais ouais, moi c'est ce truc du basique et essentiel quoi que je trouve hyper important dans le fait de travailler sans texte.
Il y avait une autre chose qui était assez intéressante et aussi c'était souvent sans parole. C'est à un moment, il y a eu une grande école où c'était juste un seul dessin. Il y a eu des Bosque, Chaval, des gens comme ça, Follon, enfin, on appelait ça le dessin d'humour, mais avec un seul dessin, il vous racontait une histoire. Et ça s'est perdu un peu cette tradition, mais ça rejoint tout à fait. Voilà, c'est complètement. Immédiat, il y a un genre de perception comme ça, complètement primitive, complètement primale, qui est super à retrouver, quoi.
Tout à l'heure, tu disais que le confinement avait servi à retrouver un petit peu son intériorité, en fait. Et moi, quand je vous écoute, j'ai quand même l'impression que dans chacun de vos albums, vous avez vraiment exposé réellement ce que vous viviez au quotidien, que ce soit s'attaquer à un site nucléaire donc, et le traduire par le silence. Pim parlait tout à l'heure de la vie confinée éternelle de l'artiste. Benjamin, t'es, si j'ai bien compris, donc berger l'été. Du coup, ça, Stanislas, ouais, ça... Parle-nous un petit peu de tout ça, de ce rapport au silence, du coup, parce que c'est un vrai rapport au silence que vous avez traduit dans vos œuvres, là.
Bah, moi, je sais que je vis déjà dans un... En fait, le confinement, ça ne m'a rien fait, parce que de toute manière, je suis déjà confiné. Moi, je suis en montagne toute l'année. Donc, ouais, comme tu disais, Pim, il y a ce côté où on est vraiment isolé. Il y a un côté très monastique aussi dans le dessin, quand on est dans une cellule. Moi, je dessine. Et après, du coup, ça se ressent dans ma BD. J'ai l'impression ce côté, moi, toute la nature qui m'entoure. Moi, je vis en pleine montagne. Donc, du coup, il n'y a pas de parole autour de moi, à part voilà, les proches qui m'entourent. Mais je suis déjà dans cet environnement du silence, en tout cas où, en dehors des bruits des animaux, de la forêt, etc. Mais je suis déjà dans ce truc du sans parole, quoi, même dans mon quotidien d'une certaine manière. Donc, ouais, voilà.
De toute façon, dès qu'on passe à l'aspect créatif, tout ça, il y a un besoin de focalisation, de concentration sur un point. Hein, la peinture, le dessin, la création d'histoire, etc. On est obligé de complètement se recroqueviller sur son inconscient et sur son. C'est là où il y a toute ça bouillonne, il y a les créations, il y a tout ce qu'on a pu ingurgiter partout, parce que
c'est comme ça. Et comment c'est malaxé, il y a un aspect alchimique comme ça qui fait que voilà, on a besoin de cette focalisation pour pouvoir après retransmettre ça à des gens, à retraduire ses émotions et les partager avec un spectateur. Parce qu'après, c'est après cette focalisation qu'il y a vraiment cet échange. Parce que c'est après comment les gens vont lire ce que vous avez fait, ce que vous avez essayé de transmettre, que va se mettre en place le dialogue entre le créateur et puis ceux qui vont partager ça, quoi. Est-ce qu'ils vont pleurer ? Si tu fais une histoire, moi c'est ça qui me dérange des fois un petit peu dans l'art contemporain, par exemple, c'est que vous avez des tartines de texte comme ça, et vous avez une œuvre, et si vous n'avez pas tout le mode d'emploi à côté pour comprendre pourquoi il a fait cette œuvre, ça ne marche pas. C'est comme si vous racontiez une histoire drôle, et puis que vous étiez obligé d'expliquer au mec pour qu'il se marre pourquoi c'est rigolo, quoi. Et donc là, quand on fait sans parole, ou ça marche, ou ça marche pas. C'est comme un DJ, où à un moment, il passe ses disques, et puis il y a tout le monde qui bouge le popotin, ou alors ça marche pas, et c'est que c'est pas un bon DJ. Voilà. Et donc là, dans ce genre de discipline qui est celle de la bande dessinée sans parole, c'est imparable. Ou ça marche, ou les mecs suivent ce que tu as envie de leur raconter, les états émotionnels que tu as envie de leur transmettre, ou ça marche pas, et puis voilà, c'est la vie. Hein. Il n'y a pas de problème. Mais voilà, moi c'est ça qui me plaît. C'est comme dans la peinture asiatique ou chinoise, où avec juste un trait de pinceau, où vous transmettez ce que vous avez à transmettre ou pas, quoi. Il y a cette pureté absolue, ce retour au basique, au simple, au magique, quoi. Voilà.
Mais ce que je trouve intéressant, moi, dans cette façon de travailler sans texte, c'est qu'aussi, en bande dessinée, la présence du texte, la quantité de texte définit vraiment la vitesse de lecture, le rythme d'appréhension de l'histoire par le lecteur, la lectrice. Et le fait de travailler sans texte, en plus, en travaillant sur des images qui sont beaucoup plus grandes que ce que je fais d'habitude, et dans cette période particulière du confinement, a fait que moi, ça m'a fait changer de façon de travailler, déjà parce que je me suis beaucoup plus perdu dans le dessin. Je me suis beaucoup plus laissé absorber dans une forme de... Ouais, de contemplation, en fait, de jusqu'au boutisme, de tels petits détails, de ces grands formats, quoi. Et aussi, le fait de se passer quasiment du cadre, qui est un autre des éléments constitutifs de la bande dessinée, avec le fait d'avoir des cases qui sont plutôt courtes, plutôt longues, plutôt hautes, plutôt carrées, qui s'enchaînent très vite ou pas. Là, finalement, c'était presque comme de revenir à quelque chose d'entièrement décomposé, en fait, qui laisse complètement la liberté du rythme à la personne qui l'ouvre et qui le parcourt, et ça peut se lire en 3 minutes 30, tout comme je pense qu'on peut s'attarder vraiment sur chaque image, et ça c'est une vraie particularité du muet, je pense, en bande dessinée en tout cas.
Ouais, et justement, c'est une particularité, et puis en même temps il y a cette histoire de... Des fois, des gens nous disent, ouais, c'est une contrainte, c'est une forme de contrainte de dessiner sans texte. Et en fait, plus t'en fais, plus tu... Finalement, tu la vois même plus, la contrainte, quoi. Mais il y a quand même toujours ce truc de chercher à transmettre, hein, une émotion, à transmettre une idée dans la narration, et tout ça avec du dessin sans texte. Et c'est vrai que... Ouais, c'est ça. Mais en même temps, c'est une contrainte qui est hyper jouissive, quoi. Et du coup, t'es obligé de toujours chercher un peu le petit... comment tu vas faire pour transmettre ça sans aucun mot, quoi. Et ça, c'est assez excitant, quoi.
Oui, dans chacune de vos œuvres, là, enfin, présentes, là, il y a un aspect contemplatif qu'on peut se permettre, puisqu'effectivement, sur chaque case, ou chaque image, ou chaque page, on peut s'arrêter le temps que le lecteur le désire, quoi, en fait, quoi. Quand on voit, par exemple, une œuvre comme Trémène, là, du coup, tu travailles, Pim, à partir de la 3D, que tu repeins d'une manière numérique. Hein. Mais effectivement, on peut prendre chaque case, les agrandir et en faire une case par page quasiment, ou faire une exposition avec, à partir de chaque case, en fait. Et dans chaque case, on peut s'y attarder, quoi, en fait.
Yes, you can. Yeah, the 3D is a tool to come up with different compositions that I wouldn't come up with as quickly when I'm drawing or from my head. So with one move of the mouse, you can change the camera or you can change the direction of the light. And those are tools that also help you to tell a story more efficiently. What I also try to do with scrapping the text from the book is also making the images, scrapping as much visual as possible, so only the things remain that are necessary to tell it, to try to see how far we can go without losing the reader and try to walk this fine line with not giving the reader the option to understand it completely. But for me, it was important to give the reader a feeling they would understand it, so to remain the mystery.
Quand tu dis de pas comprendre, effectivement, moi, ça m'évoque le fait qu'il puisse y avoir des lecteurs qui auraient une interprétation un petit peu différente d'une partie du récit ou d'une situation que toi, t'as semblé peut-être plus claire ou que t'as laissé, justement, assez mystérieuse pour laisser des interprétations différentes. Et là, par exemple, tu dis...
Left it vague, but I had a test read by some friends, and they had to write me how they interpreted it. If it was too off what I had intended, I changed it a bit every now and then. But
alors, dans le côté récit, effectivement, à la limite, on peut très bien refermer le livre en se disant, ben, j'ai compris à peu près ce que Pim avait voulu dire ou ce qu'il avait dans la tête. Qu'importe si c'est exactement ce qu'il a voulu dire ou pas, on peut refermer le livre. Mais là, tu parles d'un projet de jeu vidéo. Alors, le jeu vidéo, ça va. Du coup, tu vas laisser une fin ouverte avec plusieurs niveaux et plusieurs boss à la fin.
No, it will be closed, but it's the way it's told. The video game is a continuation of the comic book, so it will also be silent. Also, no need for translation. It's a linear story, and what mostly adds is that it is in motion and has a bit of sound, but still no dialogue, so it stays very faithful to the original.
Alors, si, alors tu me dis si je me trompe, mais du coup, tu commences Tremen 1 tout seul aux commandes, comme tes camarades ici en dialogue intérieur. Le Tremen 2, ça devient un dialogue à deux. Mais le jeu vidéo, tu fais pas un jeu vidéo tout seul. C'est un travail d'équipe.
I'm doing it with
trois, ils sont passés à trois, c'est ça?
I'm making it with a friend of mine, the video game. So it's a, well, it's a duo, like with the second book. With
D'accord. Ok, et il y a un troisième qui arrive? J'ai pas lu la fin du deuxième.
Working now on the video game, which you can see as a continuation of the comic books, and hopefully after the video game, which should come out in 2023, I really like to do another comic book. But for now, I have my hands full on the game for the next year, for sure.
Et alors, tout à l'heure, Marc, tu évoquais l'aspect magie. Hein, on est d'accord, hein, le petit anagramme image magie. Moi, il y a quand même un aspect que j'aimerais bien qu'on creuse ensemble, c'est la magie de la bande dessinée, quoi, en fait, la magie de l'ellipse. Parce que je ne suis pas complètement convaincu que tous les lecteurs consommateurs de bande dessinée aient vraiment conscience de cette magie de la bande dessinée. En fait. Moi, je trouve que c'est un média qui reste encore à explorer, alors qu'on a l'impression qu'on en a été... inondé et qu'on a fait le tour de la question. Et je suis persuadé que non, il y a encore des choses à faire autour de cette ellipse, de ce raccourci du cerveau, quoi, qui crée un récit entre deux images fixes quand même. Hein. On en revient là. Et je sais pas, qu'est-ce que vous pouvez en dire de ce truc-là? Est-ce que lorsque vous avez créé en mettant deux images juxtaposées, il y a un récit qui à un moment donné a été surprenant, qui s'est créé, ou comme ça, une intervention du...
Pour rejoindre ce que vient de dire Pim, c'est que c'est vrai que ce besoin d'explication n'est pas forcément nécessaire. Moi, ce que je trouve intéressant, là, il y a plein de films où, vous avez compris, on vous explique tout, on vous mâche bien tout, machin, vous n'avez plus d'espace où vous projetez vous-même, où vous projetez votre imaginaire. Et quand on laisse des espaces un petit peu plus flous, des espaces où le lecteur peut imaginer ses propres, projeter ses, son propre imaginaire sur celui d'un autre, comme ça, je trouve que ça, ça enrichit le processus de communication avec son lecteur. Parce que c'est une appropriation par le lecteur de ce que vous lui avez proposé. Quand vous lui avez mâché tout le morceau, qu'il n'y a pas d'espace où vous pouvez imaginer quelque chose, que peut-être, mais regardez dans, dans les ombres au fond, là, où quand c'est des dessins un peu sombres et que dans, le, dans l'ombre, là, on peut imaginer ce qu'on veut, ça laisse un espace à l'imaginaire. Du... C'est un peu comme en littérature. En littérature, vous n'avez pas les images, donc vous pouvez projeter le visuel que vous voulez dessus. Là, quand on laisse dans l'histoire des petits trous volontaires ou pas volontaires, souvent volontaires, mais et que on dit bah, là il y a peut-être moyen au lecteur de ouais, tu fais comme tu veux, c'est pas du do it yourself, mais il y a un petit quelque chose comme ça, je trouve que c'est un plus.
Tu veux parler de la différence entre lire Dune et voir Dune, c'est ça?
Voilà, je te laisse par exemple si tu veux.
Non, ce qu'il y a de vraiment intéressant dans la bande dessinée, mais je pense sans doute dans la narration séquentielle de manière générale, hein, à l'écran c'est un peu la même chose, c'est le fait qu'un sens se dégage juste par la rencontre de deux images. Et il y a un, moi pour les besoins d'un atelier, j'avais cherché un petit peu jusqu'où on pouvait remonter avec, dans la théorisation de ce type de processus de pensée. Et j'avais trouvé l'histoire d'un... Donc c'est un cinéaste russe du début du XXe siècle qui s'appelle Kouletchov, si je ne me trompe pas, qui avait fait, a priori, selon la légende, il y a un truc un petit peu storytelling là-dedans, fait une expérience sur des spectateurs en leur présentant, je crois que c'était deux images, un gros plan très serré avec un visage de personnage qui, dans mon souvenir, était un homme. Et c'était enchaîné, il y avait trois variantes. Une variante avec une assiette de soupe, une variante avec une femme allongée sur un canapé, quoi. Et la troisième, c'était peut-être un nouveau-né. Ou... Et en demandant ensuite au spectateur quelle expression émanait de ce premier plan, qui était donc un visage parfaitement inexpressif, il avait pu confirmer son intuition, qui était que la juxtaposition d'images faisait que l'homme avait l'air pénétré et amoureux en voyant, enfin dans la variante où il était confronté à une image de femme, il avait l'air affamé en voyant, enfin quand c'était avec le bol de soupe, vous voyez le principe quoi, et alors que les plans étaient rigoureusement les mêmes, ce visage était, ne disait rien, et c'est juste la rencontre qui créait ce sens-là, et ça fait partie de ce qui sera, je pense, toujours fascinant dans le fait de raconter avec des images. C'est que simplement se faire se cogner deux choses crée quelque chose de nouveau sans avoir besoin de le représenter et donc de le dire non plus, quoi.
Oui, pour ceux qui sont intéressés par la théorie de la bande dessinée, il y a quand même là le livre L'art invisible de Scott McCloud qui a bien expliqué ça et qui démontre quand même pas mal.
Avant, il y a celui de l'art séquentiel de Will Eisner. Hein.
Oui. Donc cette magie de deux images.
Parce que
tout à l'heure Benjamin d'accord. parlait de se perdre dans l'image. Toi, il y a quelques pages où on se dit que tu t'es bien perdu quand même. Tu as pris du plaisir à te perdre, à te laisser suivre.
Oui, à fond. Ouais. Moi, c'est vrai que quand je dessine, il y a toujours ce truc de. Ouais, de se perdre, quoi, puis de laisser des petits signaux un peu au lecteur. Qui verra ou qui verra pas, mais oui, il y a toujours ce truc de se perdre dans le dessin. Moi, j'ai un dessin très... je sais pas comment dire ça, mais ça me fait penser un peu à des mantras ou à des... Enfin, il y a un côté très répétitif, puis aussi un côté où je m'abîme dans mon dessin, quoi.
Et alors, juste pour nous situer le contexte en termes de technique, par exemple, tu travailles comment
Moi, alors déjà, je travaille avec des routes.
Décris-nous l'environnement et...
Ah, l'environnement, c'est très basique, quoi. J'ai ma petite pièce... Je prends, surtout l'été, en fait, je prends beaucoup de notes pour faire mes histoires. Je crée mes histoires l'été, là où je travaille, en fait, donc en montagne. Et puis, en fait, quand je reviens, j'ai toute la masse d'informations, de mon scénario est prêt, etc. Et puis après, j'attaque pendant l'hiver en suivant mes notes et en modifiant des fois en cours de parcours, quoi. Mais c'est, Ouais, c'est à peu près comme ça, quoi. Et puis je fais du crayon à papier, et puis après je passe avec mes Rotring, et puis voilà.
À aucun moment, Rotring direct ou stylo noir direct?
Si, en fait, je prends ma planche, je vais tirer vraiment mes grandes idées par case, quoi. Je ne sais pas comment vous faites, vous, mais en gros, j'ai mon idée principale, et après, le reste, c'est de l'impro avec le Rotring, mais l'idée principale est quand même travailler au crayon à papier pour être sûr de ne pas la rater. Et puis le reste, c'est tellement petit que de toute façon, ça ne se voit pas, donc c'est pas grave si c'est raté, quoi. Il y a un peu ce truc de... Je me concentre surtout sur le principal, quoi.
Et donc, graphiquement, dans le travail, cet espace de liberté, chez vous autres, sur la 3D, par exemple, avec PIM, ou ta manière de travailler, c'est sur Photoshop que tu travailles, par exemple?
Moi, je travaille sur Procreate, okay. Qui est un programme sur iPad... Depuis, ça fait 2-3 ans, je faisais avant du Rotring et des petites règles et des traces cercles. J'ai un peu écumé ces techniques-là. Et je continue, hein, mais je peux. Le fait de bosser en numérique, moi, m'a plutôt aidé à justement abandonner l'envie de tout boucler, de tout définir, de tout préciser, en fait. Comme le Rotring est un outil super précis, à la fois ça pousse à une certaine synthèse, quoi. Moi, j'avais envie toujours d'aller vers une géométrisation des formes, des espaces, mais je me suis rendu compte au moment de commencer, pas ce bouquin-là, mais celui d'avant, qui s'appelle Soon, qu'on a fait avec Thomas Caden, que je m'apprêtais à devoir dessiner des villes dans 120, 130 ans, enfin de 2151 dans l'histoire, et à devoir aussi beaucoup dessiner d'espaces naturels, de villes qui avaient regagné, de nature qui avait regagné des espaces de villes. Et en fait, je me voyais avec mon petit Rotring et mon envie de dessiner chaque petite feuille de chaque arbre, et je me suis dit, c'est pas possible, je pourrais pas faire ce livre et ça marchera pas, en fait. Et bosser en numérique m'a plutôt aidé à lâcher ça, à faire des choses qui sont plus floues, qui sont plus dans la suggestion, qui sont plus des silhouettes, des jeux de lumière, à peu près tout ce que je m'interdisais avec le Rotring, parce que je ne savais pas le faire. Donc.
Oui, mais là, ouais. Tu te rapproches du coup presque de la peinture. Ça pourrait être presque des tableaux, entre guillemets, en peinture traditionnelle, ta succession d'images.
Oui.
Peut-être une...
Ouais, bah, sans doute.
Une prochaine production de ce type-là, quoi.
Bah, en tout cas, plus guidé par la couleur, ouais. Mm-hmm. Que toujours avec le dessin pour tout fermer.
Et Pim, sur la conception 3D à la base, à quel moment tu t'arrêtes, disons, parce que la conception 3D, c'est quand même assez... c'est technique, quand même. Il y a quand même une charge technique importante. Et l'espace de liberté, il se situe où entre la création de tes personnages et l'intervention en numérique sur de la peinture?
As I see it more as a tool. Some painters, they use physical sculptures with a light on it to get the right shadows or the composition, where they make entire sets of models. And, well, I do that on a computer, so it's not so much a technique, more as a tool. It's how you use it, so you maintain your freedom, and it saves you time from setting everything up physically. It's not easier, it's not harder, it's just something for me, a way of working that I like. So I do start on paper in the beginning. I write down the story, discuss it with Mark. I make my sketches, see what works on paper. Then I set it up in 3D, but very roughly, with a lot of detail still missing, because I don't want to copy this. I want to draw this myself, but this gives an extra option. Like I mentioned before, I can move the camera, change the light, change the poses, and with a few clicks, I can come up with another composition, perspective, that I would have taken much more time if I had to think of about it in my head. If something doesn't work, I can easily change it. So it's like a tool, and when I'm happy, I put everything together, then I start drawing the actual page, because I have a good impression what it will actually look like, instead of discovering it by painting right away. So I don't have to throw much work away that I do not like.
J'ai l'impression que ça se rapproche très bien du travail de réalisateur. parce qu'il a des caméras, il peut venir changer l'axe de la caméra, changer l'éclairage et tout ça. Et donc, c'est presque naturel qu'il tende vers quelque chose où il va y avoir des mouvements de caméra. Il y a un côté mise en scène, puisque c'est quand même une petite scénographie qu'il a mis en place en faisant ses personnages, le posing, etc., ses décors et tout. Et puis après, il vient recadrer. Moi, il m'a proposé à certains moments quelques versions, un peu plus comme ça, un peu plus comme ça. Enfin, tu vois, pour qu'après, l'histoire et les ellipses entre les images soient les plus efficaces possibles. Donc, il y a un travail vraiment de mise en scène, mais qu'on fait aussi quand c'est du dessin 2D. Il y a un choix de cadrage, de plan, chaque manière
de... C'est difficile de bouger la caméra, quoi.
Voilà, tout à fait. Voilà.
Sur papier.
Oui. Ben là, comme il dit, c'est un nouvel outil, mais on fait ça dans la tête et avec un crayon d'habitude, hein, en dessin. Donc,
Et alors sur votre collaboration, Marc et Pin, est-ce que, parce que Marc, tu es quand même un artiste plus que complet sur tous les supports et tout le type de production, est-ce que ça t'a pas donné aussi envie à un moment donné peut-être de t'investir dans l'univers de Tremaine, par exemple, et en faire aussi toi, un spin-off Marc Caro dans Tremaine, par exemple, est-ce que...
Non, moi, on s'est rencontrés parce que j'ai fait la postface de son premier album, où j'ai rien à voir avec, et j'étais fasciné par ce qu'il a fait. C'est vraiment un coup de foudre. J'ai trouvé ça d'une originalité, de voir un univers comme ça existant. J'ai trouvé ça vraiment génial. Et donc, quand il m'a demandé, j'étais complètement à son service. C'était vraiment son monde. Et moi, j'étais à son service. Alors, moi, j'ai déjà fait ça. J'ai déjà travaillé pour Gaspard Noé, pour plein de Yann Kounen et compagnie. Donc, je peux assez facilement me mettre au service des autres, mais être vraiment à leur service, à son univers. Tout ça, c'est vraiment sorti de sa tête. Et moi, si j'ai pu lui filer un coup de main comme ça, c'était vraiment... Waouh, c'est super, quoi. C'est vraiment génial. Mais c'est son univers, hein, quand même. Et voilà. Et je suis super fier de ce qu'il a fait, quoi.
thank you. What helped with Mark was with the contact with Mark, I was able to make a longer story within the Tremaine universe, where the first book had more individual parts. I wanted to make a long story from start to finish for one album, and the collaboration with Mark helped me to do this for more character motivation, the contact, to make it a more coherent universe.
Donc l'étape après le jeu vidéo, ça pourrait être un long métrage?
Ouais, si c'est lui le réalisateur. Hein, moi.
After the video game, yeah.
Il nous reste un petit quart d'heure. Est-ce qu'on peut prendre des questions dans le public, si ça vous tente de creuser encore un petit peu la personnalité de nos quatre artistes ici présents? Donc n'hésitez pas à lever la main, on va vous passer des micros si c'est possible. Même si c'est une conférence consacrée aux sans-paroles, n'hésitez pas. Bon, pour l'instant, on n'a pas tout à... Alors, soit on a cerné le sujet...
Ah,
si, excusez-moi. Ah oui, à gauche. Pardon.
Il y en a un.
Vite, vite, il va partir.
Le laissez pas sortir.
C'est pour vous aider. Non, un grand merci aux auteurs, là. C'est très émouvant de vous entendre parler de votre travail. Moi, j'avais une question à propos des archétypes des films américains et tu faisais le parallèle entre ces archétypes des films américains et puis le dessin sans bulle. J'ai toujours été gêné par ça parce que j'ai l'impression que ça devient des caricatures et malgré tout ça transfère beaucoup d'émotions et une facilité d'accès à des œuvres qui peuvent être beaucoup plus complexes que ce qu'on imagine au départ. Et j'arrive pas à me situer dans ce truc-là. J'adore la lecture, j'adore les trucs complexes, les œuvres où ça parle beaucoup, où il y a beaucoup de descriptions, de textes, etc. Et malgré tout, on reste attaché, justement, et j'arrive pas à savoir si on se fait avoir par ces archétypes qui simplifient, ou si au contraire c'est où faut se laisser aller par cette émotion parce qu'elle vaut quelque chose. J'ai pas lu vos œuvres du tout, donc je ferai pas de commentaires sur ce que vous avez fait, mais c'était juste le lien par rapport à ce que tu avais dit avec les films américains.
Alors, ce que je vous propose, c'est de. Il y a un bouquin qui est. Enfin, même une série de bouquins qui sont très intéressantes, qui sont de Joseph Campbell, qui a fait tout un travail comme ça sur tous les archétypes. Il a étudié, c'est un mec assez incroyable, qui a étudié toutes les mythologies, les contes, etc., et qui en a fait un résumé, qui a sorti des typologies de tous les types de héros, de personnages, des mentors et tout ça. Il a fait, c'est ce qui a nourri énormément George Lucas pour son fameux Star Wars. Et il y a aussi d'autres auteurs comme Vladimir Propp qui a fait un travail comme ça sur tous les contes des Russes, etc. Où tu t'aperçois que depuis l'Antiquité, depuis qu'on raconte des histoires, il y a cette grande typologie de personnages. Mais c'est un peu comme pour la musique. Tu as un moment, tu as des notes. Et puis, à partir de ça, c'est quand même qu'une base pour pouvoir, à travers chaque spécificité de chaque artiste, de pouvoir faire des variations sur le thème. Tu vois. Et après, on est tellement baigné dans une culture quand même qui remonte à des millénaires. Hein. On a quand même tous un peu un genre d'inconscient collectif comme ça où on a des structures reconnaissables. Et puis après, c'est à nous d'apporter aux nouveaux auteurs, d'apporter quelque chose de contemporain, de trucs qui résonnent avec notre environnement et puis nos émotions, puis les émotions de chaque époque. Tu vois. Et c'est plus, là aussi, encore un outil. Et alors, des fois, effectivement, c'est utilisé d'une manière un petit peu... un peu brutal, tu vois, par le cinéma américain. Lui, c'est un méchant, lui, c'est un machin, tu vois. Le blond, le brun, enfin, tu vois, là, on vient maintenant avec d'autres clichés où c'est, tu vois, bon. Donc, mais je pense qu'il y a quand même, quand on raconte les histoires, tu vois, les trois actes de la dramaturgie, on y repasse tous à un moment ou à un autre. Alors après, on essaye de jouer avec. Mais il y a quand même deux grandes façons, des grandes façons de raconter des histoires, et on est toujours un petit peu presque passage obligé, pas obligé, mais je pense que ça résonne plus. T'as un début, un milieu, une fin, quoi. Tu vois, il y a quand même des grands trucs comme ça. Après, c'est ce qu'on peut amener de nouveau qui fait la pertinence. Du récit, etc. quoi. Mais c'est vrai que moi, je partage complètement ton... À un moment, moi, quand ça fait la 12e fois qu'on me fait exploser l'étoile de la mort, toi, ça me... à un moment, ça va, quoi, les gars. On peut peut-être trouver autre chose, tu vois. Non, c'est clair.
Il y a d'autres questions ?
Bonjour, donc je suis sourde et ma langue c'est la langue des signes bien sûr, une langue visuelle, infiniment visuelle, et souvent justement sur le choix des livres, il y a des textes à répétition sur beaucoup de livres, sur beaucoup de BD, etc. Et ce qui est vraiment plus intéressant, c'est de travailler justement sur les perspectives, sur l'imaginaire, sur le jeu avec l'imaginaire, le jeu même avec le décor lui-même, et de travailler justement avec cette 3D. Comme justement ce qui est vraiment pertinent, c'est cette complémentarité de l'imaginaire qu'on peut avoir grâce au visuel. Et moi, je remarque de plus en plus sur les livres, on trouve de plus en plus difficilement ça dans la BD. Et j'ai l'impression que qualitativement, on abandonne de plus en plus pour aller vers le texte. Et le texte ne laisse pas de sous-texte, justement, ne laisse pas de place à cet imaginaire dont je parlais. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est de renouer justement avec l'image, avec le dessin, et qu'on aille vraiment de plus en plus vers ça. de plus en plus vers le dessin, vers pratiquement un roman graphique, mais par le dessin. Et voilà, c'est vraiment cet axe-là qui me passionne. Et il y a des livres, par exemple, qui existent comme ça, comme L'océan de son amour. Et ça, c'est vraiment au niveau visuel, des choses sur lesquelles on travaille simplement par l'image, par l'aventure, par ce qui va arriver justement au protagoniste, etc. Et on a l'émotion qui arrive directement sans avoir besoin d'appuyer ça par des mots. On peut rire directement juste en voyant l'image. Et quand je me disais que justement, la langue des signes, on est sur quelque chose de très très proche. Et c'est vraiment surprenant que vous me disiez ça, que vraiment il n'y a pas besoin du tout de texte. On peut aller directement, comme dans la BD L'océan de l'amour, sur cet imaginaire-là, partir directement sur l'imaginaire, imaginer et être dans l'image. C'est ça qui est vraiment intéressant. Parce que vous, effectivement, vous vivez tous les jours dans un monde de sons, mais imaginez justement d'être simplement que dans le visuel, et c'est le travail que vous avez fait, vous plongez dans un monde de visuel, c'est vraiment super intéressant. J'ai l'impression qu'au contraire, c'est quelque chose de... Vous avez pris ça comme quelque chose de très, très positif. Vous n'avez pas pris ça comme quelque chose qui manquait, l'image, le texte, mais au contraire, positiver l'image, et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve très beau.
Bah, ouais, il n'y a rien à dire, quoi. C'est exactement ça, quoi.
Moi, ça m'inspire une petite réflexion. Je ne sais pas si vous serez peut-être raccord avec ce constat ou pas. Lorsque je vois en histoire de l'art, par exemple, des grands tableaux, quel que ce soit, je ne sais pas, le couronnement de Napoléon, on va savoir quoi, ou du Jérôme Bosch, j'avais quand même l'impression qu'avant, une seule image racontait réellement un récit, alors que je ne sais pas si c'est la publicité qui est passée par là ou un sentiment d'efficacité ou autre. Aujourd'hui, même quand on voit une illustration ou un tableau d'un peintre, en fait, on a l'impression que l'individu se prive de raconter toute une histoire, en fait, et pense l'incarner avec un seul personnage, un fond, un environnement, un comparse, un cheval ou va savoir quoi. Alors qu'avant, bon, effectivement, c'est sûr que si on met le couronnement de Napoléon en couverture de livre, ça fait moins vendeur, quoi. Forcément, c'est pas une seule image avec une créature plus ou moins dénudée. Enfin, j'ai l'impression que la publicité est passée par là pour simplifier nos propres productions artistiques, en fait.
Est-ce que vous êtes en train de dire que c'était mieux avant ?
Ah, j'ai pas dit ça.
Non, moi, si je peux en dire quelque chose très vite, c'est en fait, il y a vraiment différentes façons de concevoir des images. Et c'est une banalité, mais la publicité, effectivement, sans doute amène une nécessité de compréhension rapide. Mais d'ailleurs, le rédactionnel de la publicité, qu'il soit écrit ou sonore, doit aussi aller à l'essentiel, parfois jusqu'à l'absurde, en fait. Et dans une image qui raconte très peu de choses et qui est mise en regard avec plein d'autres images qui racontent très peu de choses, on peut aussi restituer une impression de mouvement, une impression de vitesse, une impression... Et il y a quand même quelque chose de possiblement très beau aussi avec ça.
Mais je pense qu'il manque une dimension dans ces trucs de publicité, tout ça, c'est qu'eux, ils ont un message très simple à faire passer. Hein, c'est vraiment, je te vends tel machin. Le but de comment ça s'appelle, même s'ils essayent de toucher l'émotionnel et puis l'inconscient du spectateur, hein, mais ils ne veulent pas laisser de liberté à la personne qui va appréhender l'image. Ils sont pas là pour offrir un champ, un cadre dans lequel le spectateur, le lecteur, le public peut apporter sa propre part d'imaginaire. Hein, eux, ils sont là pour tu vas m'acheter ça. Tu vois, c'est un peu comme dans Spirou, la bulle grosse, aller acheter du machin. Donc, c'est normal. C'est vrai qu'il y a plein de manières de raconter des histoires et d'utiliser l'image. Hein. Donc,
est-ce qu'on prendrait une dernière question ?
Oui, bonjour. Je vous remercie déjà pour votre témoignage qui est vraiment très, très touchant. Et j'avais cette question, c'est vous racontez des histoires uniquement avec des images. Alors, est-ce qu'on pourrait envisager, d'après vous, une histoire qui soit construite avec des images et sur laquelle on puisse poser des paroles et on puisse, du coup, comme l'image que vous évoquiez, d'un film qu'on regarde, on coupe le son et on comprend quand même l'histoire.
Ben c'est le but, non ? Enfin, moi, c'est ce que j'aimerais arriver à faire. Oui. J'ai essayé de faire ça avec les films que j'ai pu faire seul ou avec Jean-Pierre Jeunet, où il y a des séquences entières. J'espère qu'on peut les comprendre. Il n'y a pas un mot, mais il y a des séquences. Les mecs sont sur leur. On voit toute la vie d'un petit immeuble comme ça, où c'est que visuel, hein, du montage, du truc comme ça. Moi, j'adorais, j'ai dit ça depuis tout au début, tout le cinéma burlesque, où moi, j'ai pleuré de rire en voyant des Buster Keaton comme ça, il n'y avait pas un mot, hein, c'était juste du visuel, et on ressentait, on se bidonnait à voir juste à travers l'image, et Tati, c'est pareil. Il n'y a pas de dialogue dans les films de Tati. Et en même temps, il y a une poésie, il y a une genre de poésie, de magie, rien que par l'image qui est folle. Moi, je pense que les grands... Enfin, à mon sens, hein, il y a des films avec des dialogues... J'adore aussi Audiard et tout ça. Hein, ce que je trouve qui est génial, c'est la diversité. Mais c'est vrai que personnellement, moi, les grands films, ceux que j'aime, c'est les cinéastes visuels, hein, Et souvent, c'est pas que visuel non plus, c'est aussi avec du son. Hein, tu vois, les grands, grands films, on se rappelle toujours une musique et puis une bande-son ou des choses comme ça. Stanley Kubrick, Sergio Leone, enfin, je pourrais en citer des tonnes, tu vois, mais je l'ai dit tout à l'heure, je pense pas qu'un film peut se faire qu'avec du dialogue. Il vaut mieux lire un livre, si vous voulez entendre de... Voilà. Merci. Moi, je suis pour le cinéma visuel. Voilà.
Si je peux me faire juste
dernier mot.
L'avocat du diable et du texte pour une toute dernière phrase. Quand même, quand nous, tous ensemble, on fait de la bande dessinée, un des vrais intérêts de la bande dessinée, c'est quand même aussi le rapport texte-image, quand même, et le décalage qui peut se produire entre un texte et une image. Et c'est aussi un moteur de narratif et émotionnel qui peut être très fort. En dehors des bandes dessinées muettes. Voilà, je voulais juste rajouter.
Oui, oui.
Bon, comme quoi, effectivement.
Il n'y a pas de recette miracle. Il y a des chefs-d'œuvre dans tous les genres, avec du texte, avec du pas de texte. Non, c'est clair.
Comme quoi, il y a encore de multiples possibilités à explorer dans l'art séquentiel.
Oui.
Merci à vous pour cette petite heure passée dans l'intimité de vos têtes, de vos cœurs et de vos ateliers.
Merci.
Merci à vous, passez une bonne suite de festival.
Futur, littérature, cybernétique, avenir, prospective, science-fiction, liberté, utopie.
We can face any future.
Any future. Any future.
Le podcast des Utopiales. Utopiales 2021.